Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix pour ce bulletin de la mi-journée. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire finalement qualifiée après la victoire du Maroc 1-0 face à la Zambie. À Boaké, c'était l'effervescence dans les rues, comme nous rapporte notre correspondant régional Joseph Assalé, que nous retrouverons dans ce bulletin. Et parlant d'emploi en Afrique, même si on observe une croissance soutenue en 2024, des inégalités sociales persistent et suscitent des inquiétudes selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT. Vous entendrez à cet effet son chef de l'unité politique macroéconomique et emploi, Ernest Ekar. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, depuis le Nigeria, a appelé hier les États-Unis à relancer le plan de lutte contre le sida dénommé PEPFAR. Dans l'invité de la rédaction, professeur Prao Séraphin reviendra sur la récente annonce du président de l'Assemblée nationale selon laquelle les députés examineront entre autres projets de loi celui relatif à un meilleur encadrement de la dette ivoirienne. Il s'en félicite aux côtés de Francis Cassi. La victoire du Maroc aux dépens de la Zambie par 1-0 permet aux éléphants de Côte d'Ivoire d'accéder aux huitièmes de finale. À Boaké, c'était l'effervescence dans les rues et voici comment les populations ont vécu cette qualification dans ce reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional.
Qui l'eût cru, incroyable mais vrai, et à la main de Dieu dedans, autant de propos pour désigner la qualification in extremis des éléphants de Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tout juste après le coup de sifflet final du match Maroc-Zambie, remporté par les Lions de l'Atlas par 1-0, les rues de la ville de Boaké ont été prises d'assaut par les populations. De Gonfreville à la zone, en passant par Dar es Salaam, Air France, ou encore à Ouyansou, les grandes artères de la ville de Boaké étaient noires de monde. La joie des supporters, elle, était à son paroxysme.
Je suis fier des Ivoiriens. Allons seulement.
Voilà, quoi, voilà. La gueule.
L'entraîneur Gassé est parti maintenant. On est là. Ernest Faheli, il va prouver.
On est qualifié. C'est de Dieu, quoi.
Voilà, c'est miracle.
Et effectivement, je suis content même.
Passé l'euphorie, il faut maintenant penser à la suite avec le prochain adversaire qui est le Sénégal en 8e de finale. À ce propos, les supporters des éléphants à Boaké disent avoir espoir.
Aujourd'hui, nous sommes qualifiés et demain, nous allons gagner le Sénégal et puis nous allons remporter la coupe. Voilà.
On a pris la coupe, ça reste ici ou pas?
La canne, ça reste chez nous.
La suite, nous allons gagner.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Merci à vous, Joseph Assalé. Et puis, toujours parlons de football. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, des anciennes gloires du football ivoirien ont échangé hier à Daloa, au village Akwabakan, avec les jeunes sur les fléaux de l'alcool, la drogue et l'immigration irrégulière. Cette campagne visait à mieux sensibiliser les jeunes et les supporters sur la nécessité de mieux préparer leurs projets d'immigration, mais également à saisir les opportunités de formation et d'insertion professionnelle que propose le gouvernement ivoirien. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Jean-Noël Kwame.
Didier Zokora Di Maestro et Traoré Kandia, anciens footballeurs professionnels, ont tour à tour pris la parole pour demander aux jeunes de tourner le dos à la drogue, à l'alcool et à l'immigration irrégulière.
Tout ce qui est alcool et drogue m'était fait à ça. J'avais 11 ans, tous les matins à 6 heures, je partais jouer au football en partant à l'école. Je revenais à minuit. Pour réussir dans la vie, on fait beaucoup de sacrifices. C'est la clé du succès.
Ton argent que tu as économisé, 2 millions, 3 millions, quelqu'un va venir prendre ça pour dire va faire partir ton enfant en Europe, il t'a menti. Parce qu'il va le faire partir au Maroc ou bien en Tunisie, il n'y a pas de visa. Tous ceux qui ont cherché à partir d'une manière clandestine, ils n'ont jamais pu jouer au football. Ceux qui veulent jouer au football, préparez votre voyage, préparez votre avenir. Ne pas se mettre dans la drogue, l'alcool.
À son tour, le directeur régional au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Beugré Dominique, a invité les jeunes à se former tout en s'inscrivant aux différents programmes d'insertion socio-professionnelle.
Les questions liées à la drogue, à l'alcool, à la migration irrégulière,
particulier les violences, l'incivisme, mais aussi les grossesses précoces en milieu scolaire. Touche l'ensemble de nos jeunesses. Ce n'est pas la peine de se laisser mourir par ces fléaux. À travers ce message, nos jeunes vont prendre conscience et se tourner résolument vers des études, vers la mise en œuvre des différents programmes et soutenir le développement, la paix et la cohésion sociale pour les lendemains meilleurs pour la jeunesse ivoirienne.
Cette campagne de sensibilisation a été initiée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré. Jean-Noël Kwame, Taloa, Radio de la Paix.
Parlons de la situation de l'emploi dans le monde et plus spécifiquement en Afrique. Un rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, dénommé Emploi et questions sociales dans le monde, tendance 2024, note une croissance soutenue en cette année, mais persistent des inégalités sociales croissantes qui suscitent encore des inquiétudes. Juin à Genève, en Suisse, Ernest Eckart, chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT, explique les raisons de cette situation. Il est en ligne avec Jean-Claude Comé.
Effectivement, il y a un ralentissement économique annoncé depuis 2002 et qui va continuer aussi les prochains mois, mais qui ne s'est pas traduit immédiatement à un ralentissement de la croissance de l'emploi. Il faut bien voir que l'emploi suit toujours avec un certain retard la croissance économique et donc on va ressentir le ralentissement de la croissance économique seulement cette année, et ce qui explique en grande partie pourquoi le chômage n'a pas vraiment augmenté depuis.
Le rapport en tout cas note un ralentissement de la croissance africaine en 2023. Qu'est-ce qui explique justement ces ralentissements économiques?
Effectivement, le continent africain a subi de plein fouet les différentes crises internationales, à savoir notamment la crise de l'énergie et plus particulièrement la crise des prix agricoles, ce qui fait que l'inflation a augmenté beaucoup plus en Afrique subsaharienne que dans d'autres régions du monde, qui se traduit directement à un ralentissement plus important de la croissance économique.
Ce ralentissement, quelle est son incidence sur le milieu du travail, notamment en Afrique?
Alors, le ralentissement économique dans les pays africains se traduit principalement à une hausse de l'informalité et de la pauvreté au travail. L'informalité, c'est quoi? C'est principalement les travailleurs qui ne sont pas couverts par la protection sociale, qui ne sont pas couverts par un contrat de travail et qui sont souvent pas dans une situation d'emploi stable, donc avec une rémunération très variable et souvent des périodes de chômage intermittent.
Ernest Eckart, chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'Organisation internationale du travail, OIT. Les potentialités agricoles de la sous-préfecture de Dale dans le département de Danané étaient au cœur d'une tribune d'échange récemment entre le corps préfectoral et les populations. La fuite de ces produits agricoles vers les pays voisins de la Côte d'Ivoire inquiète plus d'un. Le préfet du département de Danané donne de la voix donc pour circonscrire le phénomène. Les échos de cette rencontre avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkwi.
Sous-préfecture de Dale, en plein essor économique, le préfet du département de Danané, Aoutoungé Saint-Vincent, a présenté ce tableau non sans inviter les partenaires au développement, à l'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays.
Nous avons une sous-préfecture qui est importante, qui est le grenier du département, la sous-préfecture de Dale. Cette sous-préfecture est inaccessible, au point que les produits vont ailleurs, les produits vont de l'autre côté. Et nous ne pouvons pas faire de reproches véritablement à nos parents, puisqu'ils ne peuvent pas venir avec ces produits chez nous. Je souhaite que 2024 soit une année spéciale pour Dale, que la route de Dale devienne enfin praticable et que nous puissions y aller et qu'eux aussi puissent venir vers nous pour livrer tous ces produits qui sont à leur disposition dont bénéficient les autres de leur côté. Je souhaite que toutes les structures qui peuvent nous aident à régler la question. Le président du conseil régional, nous lui sommes reconnaissants pour ce qui est fait. Nous comptons sur lui aussi pour faire encore davantage.
Un appel bien entendu par les populations à l'image du président d'une ONG œuvrant dans l'innovation en milieu rural. Gondo Yomi Gérard.
C'est la toute première fois que je participe à cette rencontre. C'est important pour nous parce que tout compte fait, nous sommes de la région. Nous devons aussi contribuer véritablement au développement de la commune et pourquoi pas au développement de la région du Tonkwi que nous aimons tant. Parce que la région du Tonkwi regorge beaucoup de potentialités et nous avons des hommes et des femmes capables de participer efficacement au développement de cette région-là.
Rappelons que cette rencontre a vu la présence de toutes les forces vives de la région. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Et Et on parle de santé dans ce bulletin. La tuberculose, qui demeure un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. En 2021, 20 729 nouveaux cas et rechutes de tuberculose de toutes formes ont été notifiés, soit environ 77 cas pour 100 000 habitants. C'est dans ce cadre donc que la ville de Grand Bassam a abrité une restitution de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose et la validation du plan d'accélération de la Côte d'Ivoire 2024. Le compte-rendu est signé Mata Touré.
Cet atelier est surtout un partage des conclusions de la seconde réunion de haut niveau de l'ONU sur la lutte contre la tuberculose qui s'est tenue le 22 septembre 2023 pour faire progresser la science, la finance et l'innovation et leurs avantages pour mettre fin de toute urgence à l'épidémie mondiale de tuberculose. Chabané Nicole est du PEFAR, le bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la diplomatie.
La question de la tuberculose est une question très cruciale pour le PEPFAR et pour le gouvernement américain. C'est pour ça que nous investissons des fonds considérables pour assurer que la prise en charge est appropriée, surtout qu'on arrive à une élimination de la tuberculose.
Kwaku Jacques, coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire.
L'épidémie de la Covid a freiné l'élan de beaucoup de pays. Et donc en 2023, l'ONU a remobilisé encore la communauté internationale, donc accélérer les interventions. La restitution vise ce que nous avons pu obtenir en tant que pays comme résultat à l'issue de la première réunion de 2018, qui vont nous permettre d'élaborer un plan. Et donc, après sa validation, le plan sera mis en œuvre et nous allons l'évaluer d'ici 3 années.
Pour ce qui est du coût d'investissement de lutte contre la tuberculose pour 2024, il se chiffre à environ 12 milliards de francs CFA et ce sont près de 1600 personnes qui succombent de cette maladie chaque année dans le pays.
Au Nigeria, son avant-dernière étape d'une tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mercredi le Congrès américain à dépasser ses divisions et à reconduire le programme américain d'aide à la lutte mondiale contre le VIH-Sida, PEPFAR, mis en place il y a déjà 2 décennies. À Lagos, il a donc rencontré les médecins de l'Institut nigérian de recherche médicale qui est en première ligne dans la lutte contre le Sida dans le pays. Sans transition, nous retrouvons l'invité de la rédaction et ce jour, il s'agit du professeur d'économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, professeur Prao Séraphin, qui se félicite de la récente annonce du président de l'Assemblée nationale Adama Bick Togo, 10 ans durant la première session ordinaire 2024 ouverte le lundi dernier, que les députés vont examiner entre autres projets de loi, celui relatif à un meilleur encadrement de la dette ivoirienne. Prao Séraphin répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Professeur Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Récemment, à l'ouverture de la session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale, son président a indiqué au menu plusieurs projets de loi, dont celui pour un meilleur encadrement de la dette. Que signifie un encadrement de la dette?
L'encadrement de la dette s'inscrit dans une politique de prudence au niveau de non seulement la capacité d'endettement du pays, mais du risque de surendettement. Alors encadrer la dette, c'est essayer de regarder par rapport aux ressources actuelles et futures que nous pouvons avoir, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons au niveau de l'endettement. Il y a l'endettement intérieur et il y a l'endettement extérieur. Lorsque l'État doit aux agents économiques sur le territoire ivoirien, on appelle ça la dette intérieure. Mais quand un pays comme la Côte d'Ivoire contracte des dettes avec soit un pays étranger ou auprès d'une institution internationale, ça s'appelle une dette extérieure. Donc c'est une sorte de contrôle en fait, que le président de l'Assemblée nationale et ses camarades députés veulent faire.
Une sorte de contrôle, donc ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire s'endette trop?
Effectivement, c'est ça. Pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, un stock d'armes qui dépasse les 20 000 milliards, à mon avis, c'est un peu trop. Et donc, du coup, le président Bick Togo donne un signal fort au gouvernement, parce que c'est le travail de l'Assemblée nationale de veiller à ce que les choses se passent bien, chercher à canaliser cette propension de notre pays à aller vers l'endettement au lieu de chercher les voies intérieures pour le financement du développement.
Mais nous avons entendu dire que l'endettement c'est une bonne chose parce qu'on utilise l'argent pour développer le pays.
Vous savez, les gens confondent parfois l'endettement des États-Unis et l'endettement de la Côte d'Ivoire. L'endettement des États-Unis, ça c'est normal puisque les États-Unis ont donné au monde entier leur monnaie qu'on appelle le dollar. Donc, pour les États-Unis, c'est un endettement qui permet de stabiliser le système financier international. À rebours des États-Unis, un pays comme notre pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais dit, et je ne pense pas qu'il y ait un économiste au monde qui dise que l'endettement est à prohiber. Mais monsieur le journaliste, on s'endette en fonction des capacités de remboursement, effectivement, du pays. Si vous vous endettez et que demain, vous n'arrivez pas à payer, c'est ce qu'on appelle le surendettement. La situation ghanéenne qui aujourd'hui a conduit le Ghana dans une crise bancaire et financière sans précédent, vous le savez, les Ghanéens sont en train de se battre pour sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent. Et ceux qui disent que c'est l'argent des autres qu'on prend pour se développer, je suis désolé.
Mais est-ce que vous pensez que les députés peuvent réussir à contrôler, à canaliser cet endettement-là?
Déjà, mon humble avis, moi je pense que c'est un exploit. Pour la première fois dans notre pays, je vois des députés qui se réunissent en disant que nous pensons qu'il peut y avoir un risque de dérapage. Et donc, comme dans tout pays sérieux, quand on voit que le gouvernement dépense beaucoup, les députés sont là pour dire, attention, vous ne devez pas faire ceci, c'est leur rôle. Et ils peuvent faire quelque chose, les députés, en encadrant ce comportement. Maintenant, après, il faut que les députés essaient de donner des pistes, des solutions. La première piste de solution, c'est d'œuvrer à une réforme bancaire et financière dans notre pays. Je n'ai pas encore vu la réforme bancaire qui a été effectuée, alors qu'on s'attendait à ce que l'économiste qui vient fasse une réforme bancaire et qu'il développe les circuits financiers dans notre pays à même de pouvoir, je vais dire, mobiliser l'épargne. L'économiste aujourd'hui, comme le professeur McKinnon, a montré que dans les pays développés, il y a une bonne épargne. Mais c'est parce que les circuits financiers et monétaires sont très peu développés que ces circuits n'arrivent pas, effectivement, à mobiliser. Donc, il faut faire des réformes. Deuxièmement, il faut réduire le train de vie de l'État. Il y a les institutions budgétivores dont le train de vie, on peut diminuer cela. Vous savez, surtout, depuis des années, le professeur Amadou Coulibaly propose une solution qu'on ne regarde pas, l'impôt foncier. L'impôt foncier, monsieur le journaliste, si nous arrivons à faire la réforme foncière et à distribuer les cartes d'identité de la terre, ne serait-ce que l'impôt foncier peut nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau également des systèmes de retraite. Dans les pays aujourd'hui développés, à côté des systèmes de retraite par répartition que nous avons, parce que système de retraite par répartition, c'est quoi? Vous êtes fonctionnaire comme moi. Chaque fin de mois, on me coupe de l'argent sur mon salaire. L'argent qu'on me coupe, c'est pour payer le retraité d'aujourd'hui. Quand moi, je serai vieux aussi, ils vont couper le jeune de demain pour me payer. Or, il y a des systèmes complémentaires qu'ils ont proposés aujourd'hui dans bien des pays comme le Maroc, la Tunisie, qui sont en train d'expérimenter. En tout cas, les économies qui veulent émerger. Je pense que voilà des solutions comme ça que, bon, il faut aller vers là-bas au lieu d'aller tout droit vers toujours l'endettement.
Par rapport à l'endettement, quel est le classement de la Côte d'Ivoire en Afrique?
Je ne peux pas vous dire exactement, mais aujourd'hui, le stock de la dette, nous sommes autour de 60%. C'est vrai que la norme communautaire, c'est 70%. C'est-à-dire qu'en fait, le stock de la dette divisé par le PIB au niveau de nos autres 8 mois, cela ne doit pas dépasser 70%. Mais le FMI dit que pour les petits pays comme nous, lorsque le stock de la dette divisé par le PIB dépasse déjà 49%, il faut s'en inquiéter. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes autour de 60%. Il est possible qu'il y ait un risque de surendettement, donc il faut faire très attention.
Professeur Prao Yao Séraphin, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.
À l'instant, le professeur Prao Yao Séraphin, il est professeur d'économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké et il était avec Francis Cassis, dont l'invité de la rédaction. Cet entretien marque la fin de ce bulletin dont voici le rappel des titres. La Côte d'Ivoire finalement qualifiée après la victoire du Maroc 1-0 face à la Zambie. À Boaké, c'était l'effervescence dans les rues comme nous a rapporté notre correspondant régional Joseph Assalé. Et nous avons parlé d'emploi en Afrique et même si on observe une croissance soutenue en 2024, des inégalités sociales persistent et suscitent encore des inquiétudes selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT. Et nous avons eu le chef de l'unité politique macroéconomique et l'emploi de cette organisation, Ernest Ekar. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, depuis le Nigeria, a appelé hier les États-Unis à relancer le plan de lutte contre le VIH-SIDA. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse présentée aujourd'hui par Francis Cassis.
Bonjour à tous. C'est par la qualification hier des éléphants pour les huitièmes de finale, alors qu'ils ne jouaient